revient à la guerre en Ukraine avec ce soir un document passionnant, fascinant même. Le plan initial des Russes pour prendre le contrôle de l'Ukraine. Tout ce que Poutine et les siens avaient prévu au début de la guerre. Comment prendre le contrôle du pays en 10 jours? Qui était chargé d'éliminer Zelensky? Qui dans la population devait être neutralisé? On va en parler avec nos invités ce soir, avec Elsa Vidal qui nous rejoint à l'instant. Bonsoir Elsa.
Bonsoir,
qui discute
Maxime,
déjà avec son voisin.
Avec
Ulysse Gosset est là aussi. Michel Olagaray, vice-amiral, voilà, arrive aussi à la table. Bonsoir Michel Olagaray, je le disais, vice-amiral, ancien directeur du Centre des hautes études militaires. Je salue également l'arrivée de Jean-Marc Four. Bonsoir,
bonsoir
Jean-Marc, merci d'être là. Chef éditorialiste à la rédaction internationale de Radio France. Pauline Simonet, je disais, document passionnant, on a ce plan ce soir grâce au travail minutieux d'un institut britannique visiblement très bien renseigné.
Effectivement, le RUSI, qui est un institut qui est lié à l'armée britannique, effectivement, le plan russe prévoyait, selon ses informations, une guerre éclair, une blitzkrieg, une invasion de 10 jours avec une prise rapide de la capitale Kiev. Ce qui était prévu aussi, c'était l'élimination du président Zelensky et des principaux responsables ukrainiens par des forces spéciales, suivie d'une occupation de tout le territoire et l'annexion de l'Ukraine, et même datée, elle était prévue d'après ce plan au mois d'août 2022. Et puis pour contrer la résistance ukrainienne qu'on imaginait qui serait très limitée, il y a des listes d'Ukrainiens hostiles à la Russie qui avaient été dressées, qu'il fallait éliminer ou écarter, mais la plupart des Ukrainiens étaient considérés comme dociles ou comme de futurs collabos qu'on pourrait contrôler assez facilement. Alors pour maintenir l'inaction de l'Europe, là aussi, le plan le prévoit, il fallait faire du chantage avec des centrales nucléaires. Ça c'est peut-être un des rares éléments qu'on retrouve encore actuellement. Et donc pour prendre le contrôle de ces centrales, ce qui a été fait aussi par la Russie. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que selon ce rapport, il y avait seulement un tout petit groupe de personnes autour de Vladimir Poutine qui étaient au courant du plan d'invasion de l'Ukraine.
La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que le plan a échoué.
Oui, effectivement. Et là aussi, le rapport donne toute une série d'indications. Tout d'abord, Vladimir Poutine s'est basé sur un rapport biaisé, erroné du FSB sur l'état d'esprit des Ukrainiens. Et ce rapport, assez détaillé, eh ben, il explique en fait que globalement, la population est assez favorable à la Russie, même très favorable à la Russie, que le peuple ukrainien est un peuple globalement apathique politiquement, qui ne se méfie de ses dirigeants et qui ne s'intéresse qu'à sa situation économique. Donc là, effectivement, ils se sont bien trompés. Ensuite, autre rapport de l'armée russe qui a fait savoir à Vladimir Poutine qu'en fait, ça y est, ils avaient atteint la parité, l'égalité avec l'armée ukrainienne. Et donc, c'est sur base de ça qu'ils ont proposé une blitzkrieg, une guerre éclair. Et puis, deux autres éléments. Ils étaient convaincus, le Kremlin en tout cas, que les Occidentaux n'interviendraient pas ou de façon très limitée. Et puis, également très important, aucun plan B n'a jamais été envisagé, toujours selon ce rapport. On n'a pas envisagé l'échec de ce plan initial.
C'est fascinant, évidemment, parce que rien ou presque ne s'est passé comme prévu pour les Russes. Mais Michel Olagaray, la première chose moi qui m'intéresse dans ce rapport encore une fois de cet institut britannique, c'est de voir comment les Russes se sont auto-intoxiqués et comment en réalité un très petit nombre de personnes autour de Poutine a imaginé ce qui allait se passer. Le problème, c'est que personne n'a challengé les idées qui étaient sur la table. Personne n'a arrêté en disant « Attendez, là, vous êtes sûr ou pas ?» Non, tout le monde allait dans le même sens pour faire visiblement plaisir à Poutine. Et c'est comme ça, c'est peut-être la principale raison de l'échec des Russes aujourd'hui.
C'est surtout la confirmation de ce que nous disons tous et ce que nous avons tous compris depuis longtemps. Enfin, je pense que ce rapport ne nous apprend strictement rien, sauf sur deux points. Non, ben non, c'est la confirmation de. Enfin, blitzkrieg, c'est pas la première fois qu'on entend parler sur
bien
ce plateau.
Bien sûr.
La seule chose que j'ai notée, c'est le chantage nucléaire avec les centrales.
Oui.
Deux choses. Centrale nucléaire. Je vois pas quel chantage. À partir du moment où ils ont pris les centrales, bon, qu'est-ce qu'il y a? Ben, personne n'allait taper sur les centrales, surtout pas les Occidentaux. Ensuite, la deuxième chose, c'est certainement quelque chose qui nous avait échappé, c'était la surestimation qu'avaient les Russes de la capacité de leur armée à mener une opération de ce type. Parce que nous avions toujours surestimé cette armée, eux aussi l'ont surestimé. Ce sont les deux seuls points un peu nouveaux que je trouve.
Vous voyez quand même qu'il y avait des choses dans ce rapport.
Ce sont des rapports, ce sont des points qui arrivent tout à fait en fin, si vous voulez. Parce que le reste, Blitzkrieg, on savait. Le FSB qui s'est trompé sur l'état d'esprit des Ukrainiens, on le savait. On savait la date à laquelle, effectivement, la Russie voulait fêter l'annexion de l'Ukraine. C'est simplement mis en forme. Maintenant, on fait un package qui nous montre bien comment ça a pu se passer. Ça ne nous dit rien de ce qui va se passer.
Ah oui, effectivement, et on va en parler, on va continuer à en parler
et
ce soir.
Et qui est plus important.
Mais vous allez guider ma réflexion ce soir, je reprends vos deux points. Jean-Marc Four, d'abord les centrales. Ce qu'avaient théorisé les Russes, d'après encore une fois le rapport de cet institut britannique, c'est trois choses. Prendre une centrale, ça permet d'abriter les combattants russes, de se mettre à l'abri, une fois qu'ils sont dans le périmètre de la centrale, parce qu'on va éviter de bombarder les réacteurs, etc. Ça permet de détourner l'électricité, c'est ce qu'ils ont essayé de faire du côté de Zaporijjia, et ça permet une troisième chose, c'est ce chantage vis-à-vis de l'Occident, disant, attention, on a le contrôle d'une bombe potentielle, d'une bombe civile potentielle, qui est le nucléaire. Là-dessus, ils se sont pas complètement plantés, les Russes.
Ah ben c'est quand même ce à quoi on assiste, on continue d'assister autour de Zaporijjia. Oui, c'est à peu près ça fonctionne d'une certaine manière, même si il y a quand même de vraies discussions en cours sur cette question de Zaporijjia et de créer un périmètre de sécurité d'une dizaine de kilomètres, on va dire, autour de cette centrale de Zaporijjia. Et il y a encore 2-3 jours, la diplomatie française, par exemple, avait bon espoir d'arriver à conclure quand même un deal, un accord, y compris avec les Russes, sur la création de ce périmètre de sécurité. On va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il allait appeler à nouveau Vladimir Poutine après sa rencontre avec Joe Biden. Et c'est certainement l'un des sujets qu'ils vont aborder. Néanmoins, oui, vous avez raison, sur ce point-là, les Russes ont appliqué ce qui semble contenu dans ce plan initial. Oui, c'est assez vrai, moi, je trouve. Juste pour revenir encore d'un mot sur la question de l'auto-intoxication. Ce que moi, je trouve fascinant, c'est que l'auto-intoxication continue encore aujourd'hui. Et presque encore davantage, alors même qu'ils ont quand même subi des revers sur quasiment tous les points. Et bien, malgré tout, ça continue. Alors, pourquoi ça continue? Probablement parce qu'on a un pouvoir qui est refermé autour des mains d'un seul homme. Si vous voulez, c'est assez comparable avec ce qu'on a en Chine, d'une certaine façon. Vous voyez, l'auto-intoxication, il n'y a pas de manifestation en Chine. Ben oui, parce que personne n'ose dire à Xi Jinping, mais il se passe des trucs, regarde, il se passe des trucs. Donc c'est un petit peu pareil en Russie. Je pense que cette auto-intoxication tient aussi au fait que le pouvoir se concentre aux mains d'un seul homme, pour résumer.
Elle est là, Elsa Vidal, la principale fragilité des Russes aujourd'hui. Elle l'est depuis le début de cette guerre, sans doute avant aussi, mais elle l'est aussi... Michel Olagaray disant c'est pas ce qui va se passer, c'est quand même un point extrêmement important, c'est que ça n'a pas changé. Poutine est seul ou en tout cas entouré d'un petit cercle.
Oui, alors Poutine est certainement conseillé par un nombre extrêmement restreint de personnes triées sur le volet. Il accorde difficilement sa confiance, il a divisé les services même de renseignement de manière à ce qu'il ne puisse pas être exposé à un coup d'État par ce biais-là. Mais je crois que ça a changé quand même avec l'arrivée de Sourovikine qui, sur Kherson, a su imposer un sacrifice militaire, une défaite militaire couverte allègrement avec le chantage à Zaporijjia, avec le barrage aussi hydraulique.
Sourovikine, précisons, c'est lui qui dirige les opérations russes.
C'est le nouveau responsable des opérations russes pour ce qui est de la guerre en Ukraine. Et voilà, je pense que là, on est quand même dans un tournant où Sourovikine consacre le retour du militaire au moins à parité avec le politique, alors que le politique avait duré jusque-là et avait causé nombre de revers et ses erreurs.
L'autre point important, encore une fois, je parle sous le contrôle de Michel Olagaray et Ulysse Gosset, c'est la surestimation des capacités militaires. Les Russes, dans ce rapport, ce qu'on lit, les Russes sont persuadés qu'ils ont modernisé leur armée, que ça fait 10 ans qu'ils font des efforts pour moderniser, pour investir, etc. Et que ça y est, c'est le moment, il faut y aller parce qu'ils ont la supériorité sur l'armée ukrainienne.
Oui, quand vous dites
l'armée
les
américaine,
Russes...
ils disent
oui,
ukrainienne,
absolument.
C'est sûr.
Et oui, ukrainienne, c'est sûr, vous avez raison. Et l'armée américaine, la parité avec l'armée américaine, absolument.
Quand vous dites les Russes, c'est Poutine pense que, effectivement, et son premier cercle politique pense que l'armée russe, effectivement, a été modernisée. À plusieurs reprises avant la guerre, il a mis en avant l'idée qu'il avait des armes
extraordinaire que l'Occident ne connaissait même pas, qui était secrète, mais qui allait faire la différence en cas de bataille. Et à plusieurs reprises, il nous a parlé de missiles hypersoniques, etc., ou supersoniques, enfin, bon, des armes totalement nouvelles, et qui, c'était intriguant, effectivement, de voir Poutine comme ça à chaque fois en parler. Il était effectivement persuadé, et il y a sans doute eu une modernisation à l'échelon supérieur de l'armée. Mais par contre, il y a toujours eu une corruption, une désorganisation, un manque de capacité à se faire obéir jusqu'en bas de l'échelle. Et donc, en réalité, les hommes qui sont partis en Ukraine, d'abord, dans un premier temps, ils ne savaient même pas qu'ils allaient envahir l'Ukraine. On leur a dit, vous allez partir en manœuvre. Et puis, la veille de l'opération, ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Mais souvenez-vous de ces soldats qui disaient à leur commandant, dites donc, on est en direction de Tchernobyl, on n'a pas fait une erreur. Non, tais-toi et avance. Oui. Donc, il y avait un manque de préparation, de communication au niveau des officiers pour leur dire, voilà ce qui va se faire. Donc, tout ça a créé une réaction en chaîne. C'est ce qu'on appelle la tempête parfaite. C'est-à-dire que tout se met de façon tellement mécaniquement à aller très mal, plus le fait que les deux colonnes de chars qui étaient censées monter vers Kiev ont été bloquées par les drones turcs achetés par les Ukrainiens, qui ont paralysé les deux colonnes, et les deux colonnes ont été entièrement bloquées. Les parachutistes qui devaient prendre l'aéroport de Christomel, ils ont été décimés, et il y a eu une résistance très efficace. Et puisque, je ne sais pas si le rapport en parle, mais ce qui, à mon avis, a fait aussi beaucoup la différence, c'est la résistance des populations ukrainiennes.
Oui. Bah, le rapport en parle, mais pour expliquer que les Russes se sont complètement plantés là-dessus.
Et ça, effectivement, c'est sans doute la grande révélation de cette guerre, en dehors du fait que, effectivement, c'est une défaite de l'armée russe, mais c'est la façon dont les Ukrainiens ont réussi à mettre en place des réseaux de défense civile qui ont été extrêmement efficaces. Et j'ajoute une chose, c'est que moi j'ai découvert il y a peu de temps que dans les sacs à dos des soldats russes qui partaient pour l'Ukraine, il y avait des drapeaux qu'ils étaient censés mettre aux fenêtres des balcons. En arrivant, il y avait même des plaques qui étaient imprimées au nom des villes pour les transformer en noms russes. Donc ils étaient absolument persuadés qu'ils allaient être accueillis en héros, qu'ils allaient pouvoir mettre leur costume de parade militaire, hein, c'est-à-dire les drapeaux, les uniformes de gala, si j'ose dire. Et tout ça a été complètement, évidemment, remis en question lorsqu'ils se sont heurtés à la résistance ukrainienne.
Et justement, c'est Vladimir Poutine qui, en fait, donne la réponse qu'il veut pour le rapport. Dès juillet 2021, il fait une grande déclaration en disant « Les Ukrainiens et les Russes, en fait, sont le même peuple et les Ukrainiens sont fascinés par la Russie. » Et ensuite, peu après ça, il demande le même mois de juillet, au FSB de faire ce rapport, de faire des enquêtes, de sonder justement le peuple. Donc il y a comme cette volonté de sonder le peuple ukrainien. Mmh. Et ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement toutes les réponses semblent maintenant, évidemment c'est plus facile à dire a posteriori, mais complètement en contradiction, parler d'un peuple qui est globalement apathique, qui ne s'intéresse pas du tout à la politique. Alors maintenant ça paraît évident, mais il y avait quand même eu la révolution de Maïdan, il y avait quand même eu beaucoup de mouvements politiques qui s'étaient déroulés. Et puis ils affirment qu'il y avait, ça c'est peut-être pas si faux que ça, qu'il y avait de la méfiance par rapport à leurs gouvernants, parce que maintenant Vladimir Zelensky, on le met sur un piédestal, mais il était une phase justement à ce moment-là qui est très, très contestée. Donc ça, c'est peut-être un élément qui n'était pas critiqué.
Il y a un point, un problème qui n'avait visiblement pas été expliqué à Vladimir Poutine, effectivement, c'est l'état de l'armée russe et l'état des dotations des soldats russes. Évidemment, aujourd'hui, après 9 mois de guerre, ce problème-là a empiré. On en a un nouvel exemple, vidéo d'un soldat mobilisé, fraîchement mobilisé, et d'ailleurs, il se plaint, vous allez peut-être l'entendre, il se plaint qu'il ne reste plus que les mobilisés au front et que ceux qui avaient les soldats professionnels qui avaient les contrats, eux, on ne les voit plus et ils sont partis. Voici ce que vous allez voir, on est du côté de Svatove, c'est-à-dire dans l'est, dans le nord-est de l'Ukraine. Regardez dans quelles conditions, les conditions que décrit ce soldat, ses conditions de vie aujourd'hui, au fond de sa tranchée, abrité comme il peut de la pluie et du froid, regardez.
Hier, ils nous ont apporté des postes dans l'obscurité. Cette sorte de cabane improvisée. Évidemment, il y a de la boue partout. Maintenant, je comprends pourquoi les soldats sous contrat s'enfuient. On ne peut pas vivre trop longtemps dans ces fosses humides. Je suis un putain de mobilisé, j'ai eu un travail, j'ai payé des impôts pour ne jamais me retrouver dans cette merde. Pour savoir que je suis protégé par l'armée russe, protégé par la police. Et maintenant, on m'appelle pour aider la mère patrie. Dites-moi, vous trouvez ça juste?
Il y a tout, Michel Olagaray. Il y a à la fois les conditions de vie qui sont déplorables, évidemment. C'est la guerre, bien sûr, mais avec un matériel qui est visiblement insuffisant. Et puis, il y a la réflexion de ce soldat mobilisé qui dit « Mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ?»
Et surtout, qui dit que les soldats professionnels ne sont plus là. Ça peut donner aussi un élément de réflexion sur l'état de fatigue et d'épuisement des soldats professionnels. Mmh. C'est-à-dire qu'ils mènent cette guerre, et vous l'avez souligné, M. Gosset, depuis qu'ils sont déployés en Biélorussie. Ça fait très longtemps. Beaucoup de ces soldats-là sont quand même sur pied de guerre depuis 9 mois, peut-être davantage. Et les mobilisés viennent d'abord remplacer les morts et les blessés, qui sont quand même en nombre important. Mmh. Le général Marc Milley, chef d'état-major interarmes des États-Unis, a dit environ 100 000 personnels hors de combat. Il faut les intégrer, il faut réorganiser tout ça. Et là, manifestement, on a l'impression que les soldats professionnels ne sont même plus là. Alors, avoir une armée organisée, si la plupart des soldats professionnels sont partis, mais c'est quelque chose d'impensable. Donc, on comprend pourquoi ce Borykine veut d'abord bétonner, essayer de contenir les avances, en général, les avances ukrainiennes, Bakhmout étant quelque chose à part, puisque je crois savoir que c'est quand même un point de fixation très important.
On va en parler dans une seconde, absolument.
Mais pour le reste, si vous voyez partir les soldats professionnels, c'est peut-être parce qu'ils sont épuisés. Ils vont peut-être revenir si on les remet un peu à niveau. En tout cas, ça montre certainement que l'armée russe a des grosses difficultés d'organisation. Mmh. Des régiments, des combats, des compagnies, des choses comme ça. Ça a l'air de s'être délité. Et ça, mener des combats comme ça, sans organisation, c'est extraordinairement difficile.
Jean-Marc Faure.
Ça veut bien dire aussi qu'aujourd'hui, on est en présence, pardonnez-moi l'expression, de chair à canon. Mmh. C'est ça fait le pouvoir russe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il envoie en première ligne des mobilisés comme de la chair à canon. Et peu importe le nombre, qu'il y ait 100, 1000, 10 000 morts, ça n'est pas son problème aujourd'hui. Il faut épuiser l'adversaire, quitte à ce que des hommes y perdent la vie dans des quantités astronomiques. Alors, ça s'inscrit aussi dans l'histoire russe, évidemment, on a tous à l'esprit Stalingrad, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aujourd'hui, c'est la logique du pouvoir de Poutine, oui, d'utiliser de la chair à canon, il n'y a pas d'autre mot.
On aura des images dans un instant de ce qui se passe du côté de Bakhmout, avec un reportage de CNN qui est assez sidérant, mais avant ça, je reste sur les soldats, parce qu'il y a ce que l'on vient de voir, ce que dénonce ce soldat, mais il y a aussi la propagande. Et je voudrais vous montrer Dmitri Rogozin. C'est l'ancien monsieur espace russe. Il n'est plus en poste aujourd'hui, mais c'était l'ancien patron de la NASA russe. Je vais le présenter comme ça. Il a du temps aujourd'hui et un passe-temps qui est d'aller voir ce qui se passe sur le front. Il a publié un certain nombre de selfies, vous le voyez. Sauf que, et c'est notamment, ça c'est Slate qui nous montre ça, ce sont notamment les blogueurs militaires russes spécialisés là-dedans qui sont allés voir ce que portait Rogozin sur les photos quand il était envoyé au front. Ben, ce qu'il porte, c'est des vestes autrichiennes, des vestes turques. Il a un fusil belge, il a un Glock autrichien. Lui est parfaitement équipé, lui qui ne fait pas la guerre évidemment, il est là juste pour voir, est parfaitement équipé avec du matériel occidental, Elsa Vidal. Et là, ça tranche forcément entre les images d'un Rogozin qui est visiblement adepte de cette propagande et ce que l'on vient de voir.
Oui, mais c'est tout à fait typique de ce qu'on retrouve dans une grande partie de la classe dirigeante ou privilégiée, c'est-à-dire qui gravite et qui gère les grandes institutions de Russie, souvent à tour de rôle, hein, puisque les gens se relaient. C'est-à-dire que quand vous les rencontrez dans leur fonction, vous vous rendez compte que tout patriote qu'il soit ou qu'il déclare être, parce que c'est souvent indispensable, ils envoient leurs enfants étudier à l'étranger, ils sont souvent habillés de pied en cap avec des marques étrangères, ils jurent, en fait, le mode de vie le plus qualitatif pour eux est celui qui est à l'étranger. Alors là, ils sont contraints de donner des gages très visibles de patriotisme, mais il pose en patriote, et si on regarde les détails, naturellement, on est à côté de la plaque, parce que la qualité ne serait pas là, parce que probablement cet homme refuserait de s'équiper avec du matériel bon marché, qui est celui imposé aux troupes russes, et qui est aussi le quotidien de la Russie.
Michel Olagaray.
Moi, ce qui me frappe, là, c'est pas tant la pitrerie de ce garçon, qui est un haut responsable russe, mais c'est que il est équipé de matériel occidental. Mmh. Alors, ça prouve qu'il doit y avoir pas mal de matériel occidental qui arme donc les Russes, dont on sait quand même depuis un certain temps qu'ils ne sont pas franchement amicaux envers nous et envers leurs voisins.
Et donc comment ce matériel se retrouve là ?
Oui, tout à fait. Et en plus, on s'aperçoit qu'en raison des sanctions, il peut y avoir des limitations d'exportation, même des interdictions d'exportation de matériel. Et on s'aperçoit que les armements essentiels, fusées et autres russes, ne peuvent plus fonctionner parce qu'ils n'ont plus d'approvisionnement occidental. Mais où était la réflexion des gens qui exportaient en Occident, qui exportaient de ce matériel-là en Russie. Russie qui, manifestement, dont on sait depuis une dizaine d'années, qu'ils vont être les adversaires, plus ou moins, même si, effectivement, pendant un certain temps, on a cru que Poutine allait vouloir composer avec l'Occident. Mais où est cette réflexion? Qui a permis d'exporter autant d'armements? Qui a permis que s'établissent autant de firmes intermédiaires, comme par exemple Todé, les espions suédois? Ces espions suédois n'étaient pas des vrais espions, manifestement. Ils étaient russes, on savait d'où ils venaient. Tout le monde savait déjà que leur fille logeait à Moscou dans l'immeuble du GRU, les renseignements militaires. Et leur métier, c'était d'être des transitaires de matériel, d'armement occidental vers la Russie. Non mais, je rêve. C'est nous, occidentaux.
Ça renvoie une forme de naïveté de l'Europe qui a été surprise, d'une certaine façon.
Vous appelez ça naïveté. Moi, j'appelle ça un manque de contrôle politique. C'est tout ça, ce sont des décisions politiques. Quand on exporte du matériel d'exportation, et tu sais que c'est en France, c'est très réglementé, bon, enfin, je ne sais pas dans d'autres pays, je ne sais pas si on a exporté beaucoup de choses. On a failli exporter 2 BPC, vous savez, les grands bâtiments amphibies qui ont été vendus à l'Égypte.
François Hollande les a bloqués.
D'extrême justesse. Oui. Mais pour tout le reste, quand vous apercevez qu'il semble bien qu'ils ne puissent pas produire autant de missiles efficace que prévu, tout simplement en fonction des sanctions, c'est d'ailleurs de la non-exportation de matériel sensible de l'Occident vers la Russie. Là, c'est pas de la naïveté.
Non, mais il y a de la naïveté, il y a aussi un peu de cynisme et de réalisme économique. C'est-à-dire qu'il faut quand même, si on regarde 10 ou 15 ans en arrière, l'Europe, effectivement, et on l'a mesuré à l'aune de cette guerre, avait besoin du gaz russe, avait besoin du pétrole russe. Oui. Et donc, il y avait aussi un certain nombre de principes de réalité qui sont de la réelle politique, qui ont fait que l'Europe a probablement été extrêmement pleine de mansuétude à l'endroit de Poutine, sans anticiper forcément ce qui allait se produire, et avec une part de naïveté aussi de la France, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'Emmanuel Macron a reçu
N'appelons pas ça naïveté à Versailles.
Il a cru pendant un temps pouvoir ramener Poutine à la table de négociation.
C'est le gros reproche que font les États-Unis à la France et depuis bien avant l'invasion de l'Ukraine. Maintenant, on voit qu'il y a des frictions autour du protectionnisme américain aujourd'hui lors de la visite d'Emmanuel Macron. En fait, depuis des années, les Américains reprochent aux Européens pas d'être naïfs, mais de ne pas avoir choisi leur camp, entre guillemets, et
par intérêt.
Effectivement, c'est là qu'il y a eu...
Les Américains sont-ils blanc-bleu?
Non.
N'ont-ils pas exporté aussi vers la Russie?
Ils continuent d'ailleurs. Il y a eu la relaxe.
Les Américains ne sont pas, doivent pas être non plus exonérés de ce que je n'appelle pas de la naïveté. C'est fini. Ça n'existe pas, la naïveté. On le fait pour des raisons économiques ou autres. Mais depuis une dizaine d'années, il aurait dû y avoir quand même cette prise de conscience politique, parce que c'est tout est du politique, c'est la politique qui décide, c'est normal, cette prise de conscience politique dès qu'il fallait changer certaines habitudes au détriment peut-être des économies. Alors peut-être bien que si c'était vraiment posé la question, eh bien les Allemands auraient moins dépendu du gaz russe.
Ils ont été les derniers à vouloir s'en passer.
Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que ce sont des choix politiques. Angela Merkel a d'ailleurs défendu ses choix. Il n'y a ni naïveté, ni oubli. Oui. Ils ont choisi. Il y a eu des choix internationaux parce qu'on a eu plus d'un moment de mise en garde avec la Géorgie en 2008, avec naturellement plusieurs épisodes ukrainiens, dont l'annexion. Il y a eu des choix délibérés. On a pensé qu'en créant une interdépendance entre nos sociétés, nos économies, on arriverait à contrôler les Russes. On a mis de côté la question politique en pensant que l'économique primerait surtout. Et aux États-Unis, il y a aussi des tas de vendeurs d'âmes qui sont des acteurs privés, strictement privés. Mm-hmm. Et il y en a encore un qui vient d'être relaxé. Et voilà, le marché des armes et la France est en pôle position. On est un très grand vendeur d'armes. Et je suis sûre qu'à l'heure actuelle, si on regarde à qui nous vendons des armes, il y a parmi ces États, on pourrait penser à l'Arabie Saoudite notamment, nombre d'États avec lesquels la politique étrangère française n'est pas compatible.
Voilà. Jean-Marc Faure. Il y a eu cette illusion de croire, de la part de l'Allemagne, mais plus globalement des Européens, de croire que parce qu'on commerçait, on va dire, entre guillemets, librement, il y avait quelque chose de logiquement équivalent au fait de finalement de ramener la Russie, voire d'autres, dans l'enceinte de la démocratie à terme. et ça ne marche pas. Et d'ailleurs, on peut, là
encore,
il y a
la même problématique avec la Chine.
C'est ce que j'allais dire. Enfin, la comparaison vaut. C'est-à-dire qu'on voit bien que libre commerce, entre guillemets, ou échanges commerciaux, ou libéralisme, employez le mot que vous voulez, n'est pas logiquement équivalent avec instauration de la démocratie. La Chine, c'est l'exemple parfait.
Les